Les faits d'abord. Bonjour, ici Alain Gravel. Bienvenue. Nos institutions sont-elles aussi bien protégées que le prétendent nos dirigeants contre les cyberattaques? La question se pose avec beaucoup d'acuité après la semaine qu'on vient de passer, où notamment Hydro-Québec a été la cible de hackers. Discussion en fin de première heure sur ce sujet. Le débat de l'avortement reprend de plus belle aux États-Unis alors que les tribunaux se renvoient la balle sur la légalité de la pilule abortive. Ce débat pourrait-il traverser la frontière chez nous dans l'avenir? Je vais en parler avec mes invités en début de deuxième heure. Je vais aussi recevoir Paul Robitaille, ex-députée et journaliste indépendante, pour parler de l'atmosphère qui règne en Russie, où le moindre commentaire critique sur la guerre en Ukraine peut valoir à son auteur des années de prison. Et à la fin de l'émission, on va parler de l'Inde, qui est devenue cette semaine le pays le plus populeux de la planète, dépassant la Chine. La Chine qui, prévoit-on, va perdre la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. Et comme chaque semaine, nos tables d'analyse politique. Mais d'abord...
L'inflation baisse vite et devrait se situer autour de 3 % cet été. Malgré le recul de l'inflation, l'économie devrait progresser de façon modeste. Ce sont de bonnes nouvelles, mais on ne peut pas encore crier victoire.
C'était Tiff Macklem, gouverneur de la Banque centrale du Canada, qui a annoncé cette semaine qu'il allait maintenir son taux directeur à 4,5 %. Mais ce qui a davantage retenu l'attention, c'est sa mise en garde contre les demandes de hausse salariale élevée de nombreux groupes d'employés qui, selon lui, peuvent nuire à l'atteinte de la cible de 2 % du taux d'inflation prévu pour 2004. Un message plutôt mal reçu, notamment auprès des quelques 120 000 fonctionnaires fédéraux représentés par l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui se sont d'ailleurs prononcés en faveur d'un mandat de grève cette semaine. Ça survient alors qu'on apprenait que le chef de la direction de l'Oblast, Galen Weston, a vu son salaire doubler en 2022 à 8,5 millions de dollars. Il n'est pas seul. Vous savez, la rémunération de Michael Rousseau d'Air Canada a triplé en 2022, passant à 12,5 millions de dollars. Alors, que penser de ces écarts salariaux entre dirigeants et employés? Et nous dirigeons-nous vers une grève dans la fonction publique fédérale? J'en parle avec Yvon Barrière, vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec. Bonjour, M. Barrière.
Bonjour, M. Gravel.
Willy Gagnon, directeur du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour.
Et Ivan Chotourian, professeur en droit économique de l'Université Laval, chef d'analyse en rémunération au laboratoire sur la responsabilité sociale des entreprises. Bonjour, M. Chotourian.
Bonjour, M. Gravel.
Alors, je commence avec vous, M. Barrière, comme président, vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Comment vous avez réagi à cette idée du gouverneur de la Banque centrale de demander à ce que vous modériez et à ce que l'ensemble des groupes de travailleurs au pays modèrent leurs ardeurs pour des augmentations salariales?
Bien, j'aimerais relativiser certains de ces propos. Là, je vais me référer aux récentes recherches de l'Institut de recherche d'information socio-économique et aussi tout récemment de M. Jim Stanford du Centre Future Work. L'augmentation des salaires des employés de la fonction publique n'a aucun rapport avec l'inflation, mais au contraire. La croissance de la marge des profits des entreprises est bien supérieure à celle des salaires. Vous l'avez mentionné en entrée de jeu, mais cela explique une bonne part de l'inflation actuelle. En fait, les grandes entreprises n'ont jamais engendré autant de profits actuellement. Une cause de l'inflation qui n'apparaît pas dans les données de l'IPC concerne justement les bénéfices de ces entreprises. Contrairement aux travailleurs et travailleuses, le salaire stagne, mais les entreprises semblent avoir largement profité du contexte de l'inflation pour majorer leurs prix. Cette manœuvre leur a permis d'engendrer des profits, comme vous le savez, records. Vos deux autres collègues, mais avec moi, vous pourrez le confirmer.
Oui. Monsieur Chotourian, allez-y rapidement, M. Barrière.
Ouais. Oui. De deux, la dernière augmentation de nos membres est en juin 2020, bien avant l'inflation. Les coûts des salaires et des avantages sociaux de la fonction publique fédérale par habitant sont inférieurs actuellement à ce qui était en 2010, lors des fameuses coupures de Harper. Et finalement, M. McLean a mentionné le retour à la cible de 2 % dans son papier pour un certain temps. Hmm. On ne sait pas quand.
Oui. M. Chotourian, donc suivant ce que M. Barrière vient de dire, est-ce que le gouverneur de la Banque du Canada aurait pu inviter aussi les entreprises à modérer donc leurs prix et leurs profits éventuellement, un peu comme ce qu'on avait vu dans les années 70 avec le père de Justin Pierre-Éliott Trudeau sur le contrôle des prix et des salaires?
Ah, ça. Sans doute, effectivement, c'est peut-être un message qui aurait pu être envoyé. Très clairement, on a visé les salariés dans le message qui a été envoyé, mais c'est vrai qu'on peut penser aux entreprises. Puis, comme le dit M. Barrière, depuis quelque temps, on constate qu'il y a des profits effectivement records, que ces profits sont vraiment repartis de manière très, très importante, puis qu'il y a une redistribution qui s'opère, mais une redistribution, on le voit notamment au profit des hauts dirigeants, qui méritent sans doute une part de la rémunération qui leur est octroyée, mais dans des proportions quand même, je dirais, qui peuvent surprendre, voire même qui interrogent par rapport à la relation qu'il peut y avoir avec les salariés, hein, forcément. C'est une question qui est toujours délicate.
Oui, donc ces augmentations très, très élevées, gargantuesques, pourrait-on dire, de salaire. Monsieur Gagnon, vous travaillez beaucoup au sein des actionnaires. On dit souvent que l'exemple vient de haut. Et l'annonce de ces augmentations, M. Rousseau d'Air Canada triple son salaire, M. Weston double son salaire. Est-ce que c'est de nature, justement, à donner le bon exemple?
Bien, écoutez, évidemment, ce qui est en haut de l'échelle, nous, on est pognés pour le regarder d'en bas. Là. Mm. C'est normal qu'on regarde en haut pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Monsieur Rousseau, PDG d'Air Canada, revient à des niveaux de salaire qui étaient ceux d'avant la pandémie. Hein. L'augmentation est spectaculaire depuis la dernière année, mais on est habitué de voir des salaires aussi exagérés. Dans ces sphères-là, c'est pas...
Exagéré, vous dites.
Oui, oui, c'est pas absolument nouveau. Quand on dit exagéré parce qu'on compare ça à la rémunération, par exemple, la rémunération médiane des employés d'Air Canada, ça donne des ratios absolument épouvantables.
Par exemple?
Chez Air Canada, ça donne un ratio d'à peu près 136 fois la rémunération médiane des employés d'Air Canada.
Wow.
Ça, c'est beaucoup. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça devrait être au maximum entre 20 et 30 fois. Fait qu'on est très, très loin de ce qui nous apparaît, nous, raisonnable. Puis quand on compare
donc,
ça...
Donc, seulement pour bien comprendre, vous dites que dans une entreprise normale, ce ratio donc du salaire du plus haut dirigeant ne devrait pas dépasser de 20 à 30 fois celui de la moyenne des employés.
Oui, on parle de rémunération.
C'est quand même encore beaucoup d'argent.
On parle de rémunération, pas à proprement parler de salaire. Il y a une portion de la rémunération qui est du salaire. La plupart de ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas du salaire, c'est des options d'achat d'actions, des choses comme ça. Mais oui, ce qu'on dit, c'est que ça devrait se situer entre 20 et 30 fois, dépendamment des secteurs. Il y a évidemment des secteurs où la rémunération moyenne est plus basse. Là, si on pense à la distribution en matière d'alimentation, là, chez Métro, le salaire moyen est moins élevé que, je ne sais pas, moi, chez Bombardier ou chez Air Canada. Mais grosso modo, là, cette règle-là nous semble raisonnable, entre 20 et 30 fois le salaire médian de l'entreprise. Puis là, pour se sortir de cette ornière-là, celle qui fait en sorte qu'on a une appréciation différente d'un secteur à l'autre, on pourrait comparer ça à la rémunération ou au salaire médian au pays. On a ces chiffres-là. C'est facile de calculer que chez Air Canada, c'est 313 fois le salaire médian au pays, wow. Puis c'est 241 fois le salaire moyen au pays.
Pour une entreprise qui n'est pas encore rentable, qui n'a pas repris la rentabilité.
Puis une entreprise
là.
Qui a des obligations particulières. Ce n'est pas une entreprise normale. Air Canada, c'est un ancien monopole. Il bénéficie d'un paquet de privilèges de l'État. Là.
Ouais. M. Barrière, j'aimerais venir à vous pour l'Alliance des employés de la fonction publique du Canada. Quand vous entendez M. Gagnon, est-ce que ça, j'imagine que ça a un écho chez vos membres.
Ben absolument, puis autant aussi de la façon que Mme Freeland propose certains changements là sur son budget gouvernemental. J'ai bien l'impression que M. Rousseau, par rapport à nos membres là, qui gagnent entre 35 et 70 000, dans son cas, il n'y a pas de problème à aller faire son épicerie puis à aller faire son plein d'essence, tandis que de notre côté, sans augmentation de salaire depuis 2020, puis on nous offre, pendant que le taux là, d'inflation est à 8,3, on nous offre 1,5. Donc, il nous offre une baisse de salaire. Donc, on prend ça mal, définitivement.
Mais quand vous dites la moyenne des salaires chez vous, c'est enfin, pas la moyenne, mais ça va de 35 000 à 70 000 par année au fédéral?
Oui, absolument. Tu sais, il y a des détracteurs qui avancent là, que des gros chiffres en milliards de dollars pour effrayer les gens. Là. Mais nos salaires, c'est entre 35 et 65 000 $ par année de moyenne. Là.
Oui, mais en même temps, vous avez des avantages sociaux que les gens au privé n'ont pas, par exemple, d'un fonds de pension. Là.
Bien, définitivement. Mais comme je mentionnais tantôt en entrée de jeu, notre salaire est aussi au même niveau compte tenu de l'augmentation de la population qu'en 2010. Donc, on n'a pas d'augmentation épouvantable. Et vous savez, là, le gouvernement a de plus en plus de la misère à retenir son personnel et même à faire de l'embauche, parce que c'est plus intéressant de travailler dès ainsi au niveau du privé ou du commercial.
Oui. Monsieur Chaturian, on en est où dans la comparaison entre employés du secteur public et ceux du secteur privé? Est-ce que Monsieur Barrière a raison de dire que les salaires au niveau fédéral sont pas très élevés?
Mais c'est sûr que quand on regarde, en fait, quand on fait ces ratios dont parlait Monsieur Gagnon, les ratios qu'on les fasse dans des entreprises de type entreprise ancien monopole comme Air Canada ou bien des entreprises purement privées, on voit bien que les ratios aujourd'hui qui ont explosé, hein, on est du 200 pour 1, voire plus encore dans le monde privé. Donc on retrouve en fait des tendances vraiment, vraiment communes, hein, où on a des salariés qui ont du mal à avoir éventuellement des augmentations, qui ont des rémunérations beaucoup plus basses que la haute direction. Encore une fois, ça peut très bien se comprendre, mais c'est la proportion qui devient gênante, hein. Surtout que dans ce jeu-là, il ne faut pas oublier une chose qui, quand on repart un petit peu dans l'histoire, très simplement, c'est que ces rémunérations de la haute direction, elles ont augmenté dans l'histoire, au pire, elles ont stagné, mais elles n'ont jamais vraiment diminué. Donc même dans des contextes tendus, même quand il y a eu des crises comme en 2007 ou 2008, on a constaté que les rémunérations n'ont jamais baissé à proprement parler. Donc en fait, elles stagnent ou elles augmentent.
Chez les hauts dirigeants, vous dites là.
Exactement, ce qui peut créer aussi un sentiment, vous voyez, d'incompréhension de la part des salariés qui parfois font des sacrifices. Ouais. On l'a vu pendant la pandémie et post-pandémie. On voit bien qu'il y a quelque chose là, même en termes économiques d'ailleurs, hein, la rémunération, on fait souvent le lien avec la performance, mais c'est quoi la performance d'une entreprise? Ouais. Et puis, on sent que la rémunération change presque de nature. Moi, certains de mes collègues ont développé l'idée d'un bien positionnel, c'est-à-dire que même économiquement, en fait, la rémunération est devenue quelque chose qui se sert à se situer dans son statut par rapport à d'autres. Donc, on se détache, hein, de l'idée d'une performance, de l'idée d'entreprise et de son intérêt. Et c'est là où ça devient aussi gênant, puis ouais. Encore plus vis-à-vis des salariés, vous voyez. Ouais.
Monsieur Gagnon, il y a des actionnaires dans ces entreprises dites publiques, donc qui veillent au grain, qui assistent à des assemblées, qui peuvent voter contre des rémunérations exagérées, là, non?
Oui, évidemment, les actionnaires, ben, la plupart des entreprises cotées en bourse, la plupart des sociétés cotées ouvertes depuis une dizaine d'années ont adapté une pratique qui n'existait pas avant, qui est celle du vote consultatif sur la rémunération, la politique de rémunération de l'entreprise à chaque année, à l'Assemblée annuelle. Les actionnaires sont amenés à voter pour ou contre la politique de rémunération de l'entreprise. Puis ce qu'on constate de manière générale, c'est que ces votes-là sont largement en faveur des politiques en place. Il est très rare...
Même lorsqu'il y a ces explosions de salaires des hauts dirigeants?
Oui, il est très rare qu'un PDG d'entreprise ou qu'une politique en question soit battue. C'est arrivé, il y a quelques exemples, 3 ou 4 depuis une dizaine d'années.
3 ou 4?
Oui. Oh. Sur l'ensemble des sociétés cotées en bourse au Canada, c'est peu. Normalement, ouais. Quand ça arrive... L'entreprise, l'année d'après, a fait l'exercice d'essayer d'identifier la raison pour laquelle ils ont échoué à ce test-là, puis ils modifient leur politique. Puis de manière générale, l'année d'après, ils corrigent le tir, là. Ils réussissent à obtenir leur majorité habituelle. Hein. C'est 95, ouais. 96, 97 % en faveur des politiques de rémunération.
Comment? Parce que ces explosions de salaire des hauts dirigeants, ça joue dans les poches des actionnaires.
C'est toute la question des parties intéressées, des parties prenantes. Les actionnaires... C'est une des parties prenantes qui est identifiée au terme de la loi. Hein. Dans les parties prenantes, il n'y a pas seulement les actionnaires. Il y a aussi les employés, il y a aussi les fournisseurs, il y a aussi les créanciers, il y a aussi les clients, puis il y a la collectivité en général. Il y en a aujourd'hui qui parlent d'une logique de respect des intérêts de l'ensemble des parties intéressées. Il y en a qui parlent de la responsabilité traditionnelle du conseil d'administration, la responsabilité fiduciaire des administrateurs d'une société qui vise à protéger les intérêts et le rendement de l'entreprise. Mais les intérêts et le rendement de l'entreprise, ça ne se conçoit pas seulement en termes d'argent, mais ça se conçoit aussi en respect des intérêts de l'ensemble des parties intéressées. Ouais. Il y en a qui voient aujourd'hui le rôle des administrateurs comme l'arbitre de cet ensemble-là. Mais ce qui arrive, c'est que dans la culture, les administrateurs continuent toujours d'agir comme s'il y avait seulement les actionnaires. Alors que depuis une dizaine d'années, l'ensemble des sociétés cotées en bourse, la plupart, se sont dotées de documents dans lesquels ils ont écrit leur raison d'être, qui tient compte de l'ensemble des parties intéressées. Mmh. Et puis, c'est, les politiques de rémunération devraient tenir compte de ça. Quand on parlait du ratio tantôt, là, ça devrait figurer dans les critères pour établir la rémunération des hauts dirigeants.
Monsieur Barrière, comme chef syndical, je reviens à cette idée ou à cette recommandation là, du gouverneur de la Banque du Canada. Est-ce que de modérer nos ardeurs, vos ardeurs, comme, donc, comme représentants d'employés du secteur public pour les augmentations salariales, est-ce que ça aurait mieux passé si dans cette même recommandation, on avait dit aux entreprises, ben, modérez vos profits, puis faites attention justement à ces ratios de salaire entre les très hauts dirigeants et la moyenne des salaires des employés?
Mais dans le cadre d'une vision globale, mais absolument, mais reste aussi là, qu'on a toujours le sentiment au niveau gouvernement fédéral actuellement d'avoir une gestion légèrement déficiente, j'utilise le mot, avec une mauvaise planification. Puis là, je fais aussi référence peut-être à tous les montants astronomiques que le gouvernement fédéral a dû verser, là, à tort ou à raison, en lien avec la pandémie. Mais il reste quand même qu'on souhaite, puis tel que Mme Freeland l'a mentionné lors de son budget, d'avoir une meilleure gestion. Je vais juste vous rappeler là, le fiasco Phoenix qui est toujours bien présent.
Mais pour ce qui est de la pandémie, je m'excuse, M. Barrière, bien des gens disent que le gouvernement n'avait pas le choix et qu'il a bien agi.
Ah, bien tout à fait. Écoutez, avec tous les programmes gouvernementaux qu'ils ont pu faire pour aider là, les citoyens et les Canadiens et Canadiennes, on est complètement d'accord. Mais je reviens à Phoenix. Quand on parle d'économiser 79 millions, et là, on est rendu à plus de 3 milliards. On a fait des références avec les problèmes de passeport. Ça avait été mieux planifié. On aurait évité quelques centaines de millions de dollars là, inutiles. Donc, on est dans une situation où que on souhaite avoir une meilleure gestion, mais on ne souhaite pas non plus d'avoir une diminution de salaire dans l'état actuel des choses.
Ouais. Monsieur Chouchourian, il est possible qu'il y ait une grève dans le secteur public au niveau fédéral bientôt. On en est où dans la comparaison entre les employés du secteur public et privé actuellement? Est-ce que c'est tout aussi vrai que ce l'était, que les gens du public sont mieux traités que les gens du privé, alors qu'on voit la moyenne, je pense, des augmentations salariales l'année dernière, c'est 5% là, en général. Donc, dans le privé, il y en a eu beaucoup.
Oui, tout à fait. Ben, comme le disait Monsieur Barrière, il y a une question notamment dans le privé de rétention de la main-d'œuvre, ce qui fait quand même que ce problème de rétention de la main-d'œuvre, une des réponses qui est apportée tout de même, c'est les conditions, l'amélioration des conditions de travail, notamment bien entendu un salaire plus intéressant. Ça, on le voit très clairement dans le privé, ce qui permet quand même de pousser l'augmentation, je dirais, du niveau des salaires dans le monde privé. Mais je pense hein, tout de même que cette problématique de rétention de main-d'œuvre se pose aujourd'hui de plus en plus également dans le secteur public. Quelle réponse y apporter? Dans le privé, c'est facile quelque part de dire on augmente les salaires parce qu'à la rigueur, une entreprise, gère ses ressources, hein, c'est sa propriété, donc elle gère ses finances comme elle l'entend et peut se permettre d'augmenter sans doute un peu ses salaires d'employés.
Et un bon employé, c'est un actif aussi, donc ça rapporte de l'argent.
Oui, exactement, mais tout à fait. Alors que dans le public, ben, pour les entreprises publiques, c'est sûr que c'est plus délicat parce que bien entendu, il y a les finances publiques qui sont derrière.
Mais il n'y a pas la notion de profit.
Mais c'est un enjeu. Ben oui, exactement.
Ouais. Ouais. Donc, est-ce que ça se compare public-privé actuellement ou?
Ben, je vous dirais que oui, il y a des enjeux qui me semblent assez proches. Mmh. Puis, à mon sens, je pense que le monde public, hein, des travailleurs du secteur public, va devoir à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un mouvement qui soit fait parce que cette question de la rétention de la main-d'œuvre. Avec tout ce qu'on voit d'un vieillissement de la population, etc., des jeunes qui sont de moins en moins fidèles à leur travail, c'est sûr que c'est un enjeu qui me semble toucher autant le public que le privé de toute façon. Hein.
Ouais. Willy Gagnon, directeur du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, on a fait grand cas de l'histoire de M. Rousseau, aussi de l'histoire de M. Weston de l'Oblast. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Donc,
ouais.
M. Rousseau qui triple son salaire et M. Weston qui double son salaire.
Oui, il y a une différence fondamentale. M. Weston fait partie de la famille qui contrôle l'entreprise. Ils ont la majorité des actions.
Donc, il se paye lui-même.
Oui, mais il n'y a pas besoin de ce salaire-là. D'ailleurs, il n'est pas le mieux payé. Hein? Le directeur des opérations, Robert Sawyer, est mieux payé que lui.
Ah oui?
Oui, donc il s'attribue lui-même son salaire dont il n'y a pas vraiment besoin, tandis que M. Rousseau, lui, revient à peu près au niveau de rémunération qui précédait la pandémie. Donc, c'est deux cas très différents. Maintenant, pour ce qui est des mesures qui sont préconisées par le gouverneur de la Banque du Canada, si vous me permettiez d'y revenir, il est un peu mal pris, hein, le gouverneur de la Banque du Canada. Il a quatre mandats, hein, la gestion financière de la dette, la monnaie, les systèmes financiers, puis la stabilité des systèmes financiers, puis la politique monétaire. Là, il doit juguler l'inflation. Il y a un problème essentiellement d'offres. Hein. L'inflation qu'on vit présentement est héritée des problèmes qu'on a eu avec la pandémie, puis la guerre, puis toutes sortes de facteurs qui nous sont exogènes. Puis il n'y a pas beaucoup de prise, lui, là-dessus, sur l'offre. Peut-être qu'il pourrait s'adresser aux entreprises pour essayer de s'adresser, en fait, de régler ce problème-là, le problème de l'offre. Parce que là, il essaie de jouer sur la demande. Il essaie de jouer sur la capacité des gens d'acheter des choses. Mais s'ils ne sont pas capables de les acheter, c'est parce que l'offre a beaucoup baissé.
Ouais.
Donc, peut-être qu'il devrait s'attaquer à autre chose.
Oui, c'est multifactoriel.
Ouais. Oh, ouais.
En terminant, M. Barrière, donc, vos membres, l'Alliance de la fonction publique, ont appuyé un mandat de grève. Si vous décidez d'aller de l'avant, est-ce qu'on doit s'attendre à quoi on doit s'attendre en termes de perturbation des services publics? Il y a des inquiétudes, notamment pour nos retours d'impôts.
Bien, vous l'avez bien mentionné, parce qu'effectivement, les 35 000 employés de l'Agence du revenu qui sont avec nous ont aussi voté un mandat solide de grève. Écoutez, pendant qu'on se parle, nous sommes actuellement en train de négocier avec le Conseil du Trésor. Je vous dirais qu'il y a quelques avancées, mais sinon, dans les prochaines journées ou prochaines semaines, nous pourrions effectivement déclencher une grève et ça pourrait avoir un impact. Il est bien évident qu'on ne veut pas prendre les Canadiens et Canadiennes en otage, mais il va y avoir des ralentissements. Je pense, exemple, à passeport, à l'assurance-emploi, au rapport d'impôt, au port et aéroport, il va y avoir. Mais on assure quand même là, les services essentiels d'usage au niveau fédéral.
Mais est-ce que ça voudrait peut-être dire que, rapidement, que ceux qui ont tardé à produire leur rapport d'impôt et qui ont droit à un remboursement vont devoir attendre quelques semaines?
Tout à fait.
Et ce n'est pas considéré comme un service essentiel?
Tout à fait. La négociation s'est faite avec l'Agence du revenu. On a donc déterminé un certain ratio là, de services essentiels. Mais effectivement, ça pourrait avoir des retards, au même titre là, que quand les gens vont appeler au service à clientèle que de Service Canada ou de l'Agence du revenu. Il est possible que les attentes soient beaucoup plus longues.
Alors, en espérant que les négociations puissent se conclure bientôt de façon heureuse pour toutes les parties.
On le souhaite. Et aussi, donc, je vous en prie, mais merci beaucoup, M. Gravel.
Oui, Yvon Barrière, vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec. Willy Gagnon, directeur du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Et Ivan Chotourian, professeur en droit économique de l'Université Laval. Merci tous les trois, c'était passionnant.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci,
au revoir.
Je vous en prie.
Éclairage politique.
Donc, je poursuis avec nos analystes politiques. Yves Malo, qui est donc ex-chef du bureau parlementaire à Ottawa pour Radio-Canada. Bonjour, Yves.
Bonjour, Alain.
Véronique Prince, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Est-ce que vous attendez des retours d'impôts tous les deux?
Non. Idéalement.
Alors, moment attendu hier avec la comparution de la chef de cabinet de Justin Trudeau, Cathy Telford, au sujet de l'ingérence chinoise dans les élections au pays. Véronique, Mme Telford a évité la plupart des questions et a donné la plupart du temps des réponses pas très précises.
Oui, sans surprise, on a appris très peu de choses. Là. Justin Trudeau, son entourage, puis les libéraux en général, de toute façon, avaient pris bien soin de diminuer les attentes avant son témoignage, là, en nous préparant au fait qu'il n'y aura pas de grandes révélations. Et je pense que le fait que ça se déroule un vendredi, là, des premiers beaux midis ensoleillés du printemps, les gens avaient plus la tête à se demander si les terrasses étaient ouvertes, bien, ça leur a sûrement bien servi aussi. N'empêche que, sans enquête publique, tous les exercices parlementaires, les comités, les commissions, peu importe, ça va toujours être comme on a vu hier, c'est-à-dire des échanges partisans parce que les questions sont posées par des députés et non pas par des procureurs ou des intervenants indépendants. Des échanges qui ont pour objectif de faire sortir la vérité, très certainement, mais faire mal paraître aussi le gouvernement. Il y a une joute qui est trop évidente pour qu'on la voie pas, là. Une enquête publique aurait au moins le bénéfice de dépolitiser la chose, là. Peut-être qu'elle nous laisserait aussi sur notre faim. Peut-être qu'on aurait l'impression de pas vraiment en apprendre plus, mais il y a un caractère indépendant dans une enquête publique qui apporte une crédibilité et une transparence.
Ouais. En même temps, Yves, il y a des questions extrêmement sensibles lorsqu'on parle d'enquête du Service canadien des renseignements. Donc, Mme Telford ne pouvait pas tout dire.
Elle ne pouvait pas tout dire. On le savait dès le départ. Mais moi, ça m'amène à vous parler, Alain, de Mme Telford elle-même, qui, à l'intérieur même du Parti libéral, est de plus en plus contestée. Et je vous dis pourquoi. Elle a, depuis longtemps, dépassé la date de péremption d'un chef de cabinet. Vous savez, un chef de cabinet, c'est là pour protéger le premier ministre, s'assurer que rien dépasse. Mais c'est aussi là pour challenger le premier ministre, l'empêcher, par exemple, de répéter continuellement les mêmes erreurs. Et s'il y a une chose que Justin Trudeau fait à merveille, c'est répéter tout le temps les mêmes erreurs. Alors, plusieurs personnes au Parti libéral estiment qu'avec Cathy Telford, Justin Trudeau est dans une zone dangereusement confortable et qu'il aurait besoin d'une sorte d'électrochoc de quelqu'un qui le questionnerait plutôt que seulement le protéger. Alors, de plus, on me dit que des gens de l'entourage de Justin Trudeau sont partis dans les derniers mois, dernières années, et seraient restés si le chef de cabinet avait été quelqu'un d'autre que Cathy Telford, parce qu'il y a trop de confort qui s'est installé dans cette relation et il n'y a plus rien qui se passe de ce côté-là. Ouais. Alors oui, j'ai écouté religieusement le témoignage de Mme Telford hier. Je m'attendais à rien. Je n'ai pas été déçu là-dessus parce que je n'ai rien eu. Et ça ne fait que conforter l'impression qu'elle est là depuis trop longtemps et qu'un changement s'avère nécessaire dans l'entourage de M. Trudeau avec un nouveau chef de cabinet.
Et quand vous parlez de questionnement, j'imagine que ça s'applique pour ce fameux chèque offert par la Chine à la Fondation Trudeau.
Absolument. Ce chèque qu'on disait de 200 000 $ mais qui s'est avéré en être un de 140 000 $ Justin Trudeau fait des pieds et des mains pour dire que la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, ben, il n'a plus de lien avec cette fondation ni le Parti libéral. Mais ce lien-là, Alain, il existe et il est très concret. Par exemple, Maurice Rosenberg, celui qui a publié le premier rapport sur l'ingérence chinoise dans les élections de 2021, il était PDG de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau quand celle-ci a reçu le don des Chinois. Le rapporteur spécial David Johnston a aussi été membre de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Alors, quoi qu'il en dise, la seule chose qui dissiperait vraiment les doutes, ben, c'est bel et bien une enquête publique, à condition, évidemment, qu'il ne nomme pas une autre personne de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau pour mener cette enquête.
Cet entêtement, justement, de M. Trudeau à pas déclencher d'enquête publique, Véronique, ça vous rappelle Jean Charest à une autre époque?
Avec l'industrie de la construction, c'est sûr que on ne parle pas de la même chose, là. L'industrie de la corruption versus l'influence chinoise, là. Mais le processus menant à l'enquête publique, le processus politique, ça se ressemble, là. C'est dur de ne pas faire le parallèle, puis vous êtes bien renseigné sur cette période-là avec les enquêtes que vous avez faites, Alain. Mais rappelez-vous, pendant 2 ans, Jean Charest avait essayé d'y échapper en répétant que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait mettre en place des mécanismes, des pare-feux, en multipliant la création d'organisations de toutes sortes pour lutter contre la collusion, la fraude. Il y a eu l'UPAC, mais avant ça, l'escouade Marteau, l'unité anticollusion du MTQ, le bureau de la lutte contre la corruption, la malversation. Il avait donné plus de moyens au DPCP. Mais malgré tout ça, il a dû finir par en déclencher une enquête publique. Puis combien de temps, en fait, Justin Trudeau va endurer ça? Parce que pendant ce temps-là, les médias continuent de fouiller. Les informations arrivent au compte-gouttes. Puis chaque fois, c'est dévastateur. C'est la même chose pour Jean Charest. Ça finit par coller et renforcer l'idée qu'il y a une opacité, quelque chose que les gens ne veulent pas qu'on découvre. Puis c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas déclencher cette fameuse enquête publique-là. À un moment donné, ça devient aussi le supplice de la goutte, à essayer de se défendre jour après jour. Puis si le gouvernement de Justin Trudeau a été un peu teflon, je dirais, pour d'autres crises, là, comme SNC-Lavalin, la GACAN, We Charity, chaque fois l'histoire a fini un petit peu par s'estomper, là. Mais cette fois, on dirait que c'est pas fini, là.
Ouais, Yves, on va laisser un peu M. Trudeau. Il y a ce bras de fer entre Pierre Poilievre et la CBC, hein, pour, donc qui s'est poursuivi cette semaine. Et on parle bien de la CBC.
Oui. C'est presque devenu une obsession malsaine pour Pierre Poilievre. Et même qu'il y a des gens au Parti conservateur, me dit-on, qui aimeraient bien que M. Poilievre change un peu son discours. Mais vous savez, la haine des conservateurs envers CBC, ça date pas d'hier. C'était très bien implanté à l'époque de Stephen Harper. Mais on en veut à la CBC, mais pas à Radio-Canada, qui, selon une drôle de logique, là, selon eux, Radio-Canada offre des services au pays que les médias privés francophones ne peuvent pas offrir, mais dont on pourrait très bien se passer du côté anglophone. Mais dans les faits, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que, oui, Pierre Poilievre, il fait beaucoup plaisir à une partie de sa clientèle en dénonçant continuellement la CBC, mais en vertu de la loi sur la radiodiffusion, le gouvernement n'a pas le droit de déterminer comment les fonds qui sont alloués aux diffuseurs publics seront distribués du côté anglais, côté français. Vous savez, c'est une enveloppe. Il y a à peu près 60 % de cette enveloppe qui va du côté anglophone, 40 % du côté francophone. Ce que Pierre Poilievre veut faire, légalement, il ne peut pas le faire. S'il veut aller jusque-là, il va falloir qu'il gravisse des montagnes très hautes et qu'il change un certain nombre de lois. Bonne chance. Et pour plusieurs, il y aurait bien d'autres chats à fouetter que de continuellement s'attaquer à la CBC. Faut pas oublier qu'après sa carrière, il y en a du côté du Parti conservateur qui sont devenus chroniqueurs, hein, à Radio-Canada et à CBC. Il faudrait qu'ils pensent à son avenir un peu.
À la blague, évidemment. Véronique, il y a au Québec cette histoire des drag queens qui a retenu l'attention. Et Éric Duhaime a trouvé le moyen de faire parler de lui dans la mouvance de cette histoire.
Surtout qu'on était en relâche parlementaire, donc il a profité du vide de l'actualité politique pour s'insérer, en fait, dans le cycle de nouvelles, là. Et il a surfé là-dessus avec sa pétition pour, je le cite, là, entre guillemets, « protéger les enfants des drag queens qui veulent leur lire des contes dans les bibliothèques publiques parce que, selon lui, c'est trop une image qui est sexualisée. » Le Tennessee, ça a été le premier État américain à interdire leur spectacle dans les endroits publics, là, autre que les cabarets 18 ans et plus. Et on voit qu'il y a une douzaine d'autres États républicains qui travaillent sur des projet de loi semblable. Il y a un courant de droite, là, puis il y a une frange de la population, même ici au Canada, au Québec, qui s'associe à ce courant-là. Éric Duhaime sait comment leur parler. Il met toujours le doigt dessus, comme on dit, là, en leur rappelant constamment qu'ils n'ont pas de voix chez les élus, mais que lui, il va leur en donner une. Puis bien évidemment, qu'en signant sa pétition, il n'est pas complètement détaché. Là. Les gens vont fournir leur adresse courriel ou des coordonnées. Ça constitue une base de données, ça, pour un parti politique. C'est extrêmement précieux. Tous les partis veulent avoir ça pour ensuite envoyer des infolettes ou solliciter du financement, par exemple.
Véronique Prince et Yves Malot, merci et profitez bien de ce soleil cet après-midi.
Bonne journée.
Bye. Oui.
Vous écoutez Les Faits d'abord sur ICI Première.
On a pris cette situation-là très au sérieux. Puis ça sent niaiseux comme réponse, là. Mais je vous dirais, malheureusement, trop d'organisations se disent « Voyons donc, voir si les Russes vont s'intéresser à moi. » Je ne vais pas donner d'idée à personne. Faites juste imaginer si on attaquait Hydro-Québec et qu'on réussissait à cesser la production d'électricité.
C'était le ministre Éric Kerr, ministre québécois de la cybersécurité et du numérique, qui parlait il y a un an. Hein, il s'inquiétait alors de la possibilité d'une cyberattaque contre Hydro-Québec. Les événements de la semaine auront donné raison à ces inquiétudes. Donc, une cyberattaque a en effet réussi à rendre le site web d'Hydro-Québec inopérant cette semaine. L'attaque fut revendiquée par le groupe de hackers pro-russe No Name. En plus d'Hydro-Québec, ce groupe a attaqué plus d'une dizaine d'autres groupes cette semaine au Canada, dont le port de Montréal, le port de Québec, la Banque Laurentienne et même le site web du premier ministre Justin Trudeau. Ces attaques, évidemment, soulèvent la question des menaces qui guettent nos infrastructures essentielles. après le verglas. Est-ce qu'une cyberattaque pourrait-elle réussir aussi à affecter notre réseau électrique? Pour en parler, deux experts en cybersécurité, Frédéric Coupens, professeur titulaire à la Polytechnique de Montréal, anciennement titulaire de la chaire sur la cybersécurité des infrastructures critiques à Rennes en France. Bonjour, M. Coupens.
Bonjour.
Et Laurent Desaulniers, vice-président des services de détection des brèches chez GoSécur et testeur d'intrusion de renom.
Bonjour. Merci.
Ça, c'est quoi, testeur? C'est comme ancien hacker?
Moi, c'est exactement mon équipe. On est embauché pour pirater des systèmes puis dire comment on l'a fait. Donc, on a fait
tester. Exact. Tester. Alors, ben, je commence avec M. Coupens. Est-ce que vous êtes d'accord à dire que l'attaque de cette semaine contre Hydro-Québec et contre aussi ses autres entreprises, c'était une attaque pas très sophistiquée?
Je pense qu'on peut dire ça.
Ouais.
Dire qu'effectivement, il n'y a pas eu d'intrusion effective dans le site. Donc, c'est une attaque qui visait à rendre les sites indisponibles. Mais il n'y a pas eu d'intrusion effective sur les entreprises. Maintenant, effectivement, ce n'est pas parce qu'eux n'ont pas réussi que d'autres ne pourraient pas le faire, n'est-ce pas?
Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, M. Desaulniers?
Je trouve que la majorité des infrastructures critiques ne sont pas sur Internet normalement, typiquement. Donc, le site web d'Hydro-Québec l'est peut-être, mais normalement, l'infrastructure de contrôle n'est pas sur Internet. Donc, ça demande un degré de sophistication et beaucoup plus de planification. Donc, pour moi, bien que ce n'est pas impossible, ce n'est absolument pas un groupe de cet ordre-là qui aurait les capacités ou les connaissances pour faire ce genre de choses-là.
D'accord, mais ça, c'est comme un signal d'alarme à quelque part, M. Coupens.
Le signal d'alarme, on l'a depuis longtemps quand même.
Ah oui?
Nous, ça fait quand même déjà un an, au moment de la déclenchement de la guerre avec l'Ukraine, entre la Russie, qu'on avait déjà signalé. Et on avait parlé là-dessus sur le risque de cyberguerre, c'est-à-dire la possibilité effectivement que le conflit s'étende avec des moyens informatiques au-delà effectivement des frontières de la Russie et de l'Ukraine. Donc là, je pense que la question qu'on pouvait se poser, c'est en fait pourquoi au moment du déclenchement de la guerre, il n'y a pas eu plus de manifestations sous forme de cyberattaques du conflit qui avait démarré.
Et pourquoi vous pensez?
Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, probablement, les groupes de cyber-hackers russes n'avaient pas été prévenus de la guerre. Je pense que c'est une première raison. Je pense qu'ils ont été, peut-être pas surpris, mais en tout cas, n'avaient pas été prévenus par le gouvernement. L'autre dimension, c'est que dès lors qu'on fait des cyber-attaques de grande ampleur, il y a un risque d'escalade.
Ouais.
Là, aujourd'hui, je pense que les pays sont très vigilants à ce que le conflit ne se généralise pas au monde entier. Et typiquement, une attaque de grande ampleur contre une infrastructure critique, ça serait un signe très, très fort d'escalade non contrôlée du conflit.
Donc, parce que j'imagine que les Américains, ils ont des moyens encore beaucoup plus puissants de contre-attaquer, M. Desaulniers.
En fait, on ne sait pas quelles sont les capacités, mais typiquement, la règle, c'est un État-nation. Donc, la Chine, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis ont des moyens très, très, très sophistiqués de compromettre des organisations. Le défi, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'autre a. Donc, je pense que si, disons, un groupe comme un État comme la Russie voulait attaquer un pays, mais on ne sait pas ce que l'autre pays a pour répondre.
Mm.
L'autre chose dans la qualification de menace, c'est
ce qu'on appelle la dissuasion numérique.
On pourrait dire ça comme ça, exactement. L'autre chose, c'est que les pirates russes, ce n'est pas un bloc uniforme. Il y a des groupes russes qui sont des civils qui sont encouragés ou tolérés par le gouvernement russe.
No-name, est-ce que ça fait partie de ça?
Exactement,
c'est ça. Donc, encouragés et tolérés, mais ça ne fait pas nécessairement partie de l'appareil d'État.
Exactement. Et eux, ils n'ont pas nécessairement les moyens qu'on parle quand on pense aux États-Unis ou à la Russie. Donc, c'est des gens qui vont faire des attaques plus proches de ce que font les criminels. On parle de rançon logicielle, ce genre de choses-là. Alors que il y a des groupes de renseignement russes qui, eux, ont des moyens beaucoup plus sophistiqués, mais on n'est encore pas dans ce groupe-là.
Oui, mais alors, ce que vous me dites, en fait, puis c'est un peu inquiétant, ce que vous me dites, c'est que ça ne se fait pas, mais ça pourrait facilement se faire, attaquer, par exemple, Hydro-Québec et mettre le réseau à terre, attaquer le réseau hospitalier québécois ou canadien ou américain et de le mettre à terre. Et si on ne le fait pas, donc ils ont les moyens de le faire, c'est qu'ils ont peur à la réplique. Est-ce que j'ai raison, monsieur?
J'ai pas dit
monsieur
ça.
Coupens.
J'ai pas dit que non, c'était facile à faire.
Ouais. Mais c'est faisable.
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Je vous pose la question.
Effectivement, y a des exemples dans le passé qui montrent qu'effectivement, il y a eu des attaques de grande ampleur. Bon,
par exemple.
Pour l'Ukraine, on en a parlé, hein, les attaques russes contre les centrales électriques ukrainiennes, ça a marché, ça a conduit à un déni de service. Un peu plus loin dans le temps, il y a eu une attaque majeure contre un gazoduc qui reliait l'Azerbaïdjan à la Turquie, qui combinait une attaque informatique avec une attaque physique.
Il y a une explosion,
carrément une explosion du gazoduc avec plus d'un milliard de dollars de dommages.
Une cyberattaque.
Cyberattaque combinée à distance plus avec des moyens physiques pour effectivement prendre le contrôle de la vanne qui contrôlait le début du gazoduc. Donc, attaque combinée. Plus récemment, beaucoup plus mineur, en France, il y a quand même une attaque contre un site qui gérait des hydroliennes, donc l'équivalent d'une éolienne, mais sur la force marémotrice. Donc là, c'était du classique, on va dire, hein, une attaque par rançongiciel, mais quand même, comme l'entreprise n'a pas voulu payer la rançon, parce qu'il y en a qui ne payent pas la rançon, heureusement, ça a quand même conduit à un déni de service pendant 15 jours. Hein, comme c'était sur une petite île en France, il n'y avait plus de courant pendant 15 jours sur cette île. Bon, ça restait localisé après une attaque de grande ampleur.
Ouais.
Pour le moment, heureusement, on n'en a pas d'exemple flagrant, effectivement, en dehors du conflit russo-ukrainien.
Mais M. Desaunay, il n'y a pas eu aussi une cyberattaque pour empoisonner l'eau en Californie, en Israël, par des taux de chloration trop élevés?
J'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas de...
J'ai entendu parler de ça en Floride.
En Floride.
Effectivement, suite à la COVID, les moyens de supervision qui étaient en physique sur la centrale d'épuration avaient été mis à distance, fait dans l'urgence, donc pas moyen de sécurité. Et donc, il y a quelqu'un qui a essayé de prendre le contrôle, qui est arrivé.
Ouais.
Il a modifié les paramètres de taux de chlore de l'eau. Et heureusement, ça a été détecté, mais par les employés qui étaient là, qui ont le nez quand même, ils ont l'habitude et ils savent sentir qu'effectivement, il y a un taux de chlore anormal dans l'eau. Mais autrement, il y avait un risque majeur d'empoisonnement des habitants si effectivement ça n'avait pas été détecté à temps.
Ouais.
Il y avait un taux de chlore suffisant pour empoisonner la population.
Monsieur Desaunay, donc, comme je reviens à votre titre officiel, testeur d'intrusion de renom, hacker, comme hacker, quand vous voyez la situation, sans me donner... le truc, parce qu'on ne veut pas donner d'informations sur les stratégies. Mais quand vous regardez, par exemple, des infrastructures comme Hydro-Québec, je le disais, ou encore le système hospitalier, vous avez un réseau aussi, vous connaissez des gens. Est-ce que ça serait... Si on voulait le faire, est-ce qu'il y a des organisations qui ont les moyens de le faire actuellement?
À 100 %.
Wow.
La seule chose, c'est que souvent, il existe un concept qui s'appelle le syndrome du MEM. Beaucoup d'organisations sont comme le bonbon M&M, là, un extérieur dur et un intérieur mou. Donc, pour faire référence à l'attaque du pipeline, souvent, ça prend...
Sur qui, Azerbaïdjan, c'est ça?
Ça prend un accès physique d'abord pour contourner le périmètre qui est difficile.
Donc, une taupe à l'intérieur.
Exactement. Donc, par exemple, il y a quelques cas dans l'actualité. On sait qu'il y a eu un espion chinois qui a été détecté à l'IREC, là, chez Hydro-Québec, là, peut-être.
Présumé espion, c'est pas encore jugé.
Présumé, parfait. Merci de la précision. Même chose, on sait, dans les documents du Pentagone qui ont été divulgués là, la semaine
récemment,
passée
sur Discord. C'est assez sensible, là, quand même.
Mais il y a aussi des Russes qui se vantaient d'avoir pris contrôle d'une centrale, de pipeline canadien de pétrole. Mais ça, évidemment, c'est classifié. Là. On n'a pas tout le détail, mais exact.
Mais donc, ce que vous me dites, c'est que c'est possible, c'est difficile. En fait, c'est possible, mais pour que ce soit moins difficile, ça prend une complicité à l'intérieur de l'organisation.
Exact. Pour des attaques de ce type d'envergure-là, c'est généralement ça.
Oui, M. Coupens, là-dessus?
Ah ben là, le risque est considérable. Aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement à de la menace externe, les cyberattaques. Mais effectivement, on considère, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, il y a au moins la moitié du risque qui est en fait interne. Et donc là, ce n'est pas du tout les mêmes moyens de protection, les mêmes moyens de surveillance. Beaucoup d'entreprises n'ont pas réellement déployé de solutions adéquates pour effectivement faire face à ce genre de situation. Et là, effectivement, un attaquant qui est interne a de gros avantages par rapport à celui qui est externe.
Ouais.
Donc, c'est les infiltrés, hein, les infiltrés qui vont pouvoir faire de l'espionnage, qui vont pouvoir faire du sabotage. Et là, le risque aujourd'hui est tout à fait majeur par rapport à la situation qu'on vit actuellement.
Alors, on en revient aux vieilles histoires d'espionnage où ça prend des agents doubles pour pouvoir infiltrer ces organisations, malgré le degré de sophistication des outils de cyberattaque.
Alors, ça prend effectivement des agents qui sont réellement malveillants, mais ça peut être aussi un relais via des agents qui sont simplement négligents. Tout ce qui est attaque par phishing, quelque part, ils sont reliés en interne par des employés qui ne sont pas malveillants, mais qui sont simplement négligents par rapport à leur gestion de la sécurité. Et ça, c'est des situations très, très fréquentes aujourd'hui, qui sont beaucoup exploitées par les attaquants et avec des conséquences qui peuvent être très, très graves pour l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de préoccupant. C'est quelque chose pour lequel il y a probablement besoin de créer des structures adéquates pour regrouper des centres d'expertise qui vont répondre aux besoins des entreprises pour les conseiller, pour les aider en cas de situation, d'incident. Je pense que ça, c'est un vrai manque au Canada. Certains pays ont commencé à se doter de ce genre de structures d'expertise. Je pense qu'au Canada, c'est important. Je pense que face au risque actuel, qui est la constitution de tels centres d'expertise.
Je disais dans des articles et aussi les communiqués d'Hydro-Québec cette semaine où on disait qu'on prenait tous les moyens pour se protéger d'une cyberattaque majeure et sensible. 300 personnes donc qui sont mobilisées. Je me disais, waouh, c'est beaucoup de monde. Mais je lisais aussi d'autres articles qui disaient qu'en protection, ça prend beaucoup plus, ça prend à peu près 10 % de la main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Desaulniers? Ou...
Mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres groupes qui aident. Le gouvernement canadien, il y a le CCCS, le Centre canadien de cybersécurité, qui donne de la détection, qui donne des mécanismes. Donc, on regarde beaucoup la prévention. Est-ce qu'on est capable de bloquer l'attaque? Mais si on est capable de la détecter avant que les signes précurseurs, avec des comportements, il y a d'autres mécanismes en place. Donc, la grande force de groupes comme Hydro-Québec, c'est qu'ils ont des partenariats avec des gouvernements, avec d'autres partenaires de l'industrie, donc d'autres personnes dans l'énergie. Et il y a un partage de connaissances et de renseignements sur les attaques qu'ils ont vues, ce qu'on appelle du renseignement sur les menaces, en fait.
Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, embaucher un Laurent Desaulniers comme, encore là, je reviens, testeur d'intrusion de renom, hacker, en disant « infiltre-nous pour nous démontrer nos failles ». C'est ce que vous faites dans les vies.
Effectivement. D'ailleurs, c'est très fréquent. La très grande majorité des grandes organisations font recours à des testeurs d'intrusion. C'est très, très, très standard.
Est-ce que vous l'avez fait à Hydro-Québec?
Je ne suis pas en mesure de répondre, mais c'est très, très fréquent dans la majorité. Les gouvernements, les banques, c'est super fréquent.
Oui. Puis est-ce que ce serait, à votre avis, assez facile à trouver ces failles? Ou quand vous le faites, vous l'avez fait, je pense, avec des banques, avec toutes sortes d'entreprises. En général, est-ce que les organisations sont bien protégées ou vous voyez vraiment qu'il y a un laxisme là-dessus?
À l'interne, notre taux de succès est autour de 97 %.
Ça veut dire quoi, ça, votre taux de succès?
On est capable de compromettre l'ensemble de l'organisation environ 97 % des fois.
C'est élevé, ça, là,
hein? Ma compréhension, c'est que c'est assez élevé.
Est-ce que ça veut dire que les entreprises se protègent mal, les organisations se protègent mal?
Ça veut dire que s'ils ne font que se protéger, il y a un problème, mais s'ils mettent des mécanismes de détection pour l'attraper avant, ce que beaucoup font, là, on est en mesure d'avoir des mécanismes. Mais si on ne se fie qu'à la défense, mais là, on arrive avec ce qu'on appelle l'asymétrie de l'attaquant, où est-ce que l'attaquant, il faut qu'il gagne une fois, le défenseur, il faut qu'il gagne tout le temps. Alors que si on met de la surveillance, soudainement, l'asymétrie est différente. Si l'attaquant se trompe une fois, je l'attrape et je l'arrête. Donc, c'est vraiment...
Une fois, ça veut dire qu'on peut mettre le réseau, par exemple, encore là, je viens là-dessus, c'est pas arrivé et on espère que ça n'arrivera pas, mais on pourrait mettre le réseau de Hydro-Québec à terre, carrément.
J'imagine que pour la spécificité d'Hydro-Québec, ils ont des mécanismes de contrôle, mais ce genre d'attaque-là, on espère l'attraper avant que ça se rende là. Normalement, ça s'appelle des pivots internes. L'attaquant va passer d'une machine à une machine à une machine pour se rendre à sa cible. Si on peut l'attraper avant, bien donc, il n'y a pas de dommage et c'est ça l'objectif.
Ouais, M. Coupens, en 30 secondes, est-ce que nos entreprises, nos organisations se protègent bien?
Alors, le risque zéro, on le dit toujours, ça n'existe pas. Maintenant, il y a quand même des solutions venant du monde militaire dont il faut s'inspirer. Je ne dis pas que c'est facile à transposer, mais typiquement, le château fort, on sait qu'à un moment donné, l'attaquant, une défense statique, elle va tomber. Et aujourd'hui, dans le monde militaire, ce n'est plus le château fort, c'est la guerre mobile. C'est-à-dire la défense bouge, elle n'est pas statique. Et c'est de ça dont il faut s'inspirer pour effectivement améliorer les moyens de protection. Il ne faut pas que l'attaquant ait tout le temps nécessaire pour faire son attaque. Il faut que le temps, s'il a pris 5 minutes, qu'il n'y ait pas arrivé, les 5 minutes suivantes, il faut que ça ait changé. Ouais. C'est ça la solution. Et aujourd'hui, effectivement, on en est probablement au niveau de zéro de ce genre de solution, mais c'est réellement vers ça qu'il faut aller pour améliorer la protection.
Meilleure défense, la prévention. Frédéric Coupens, professeur titulaire à Polytechnique de Montréal. Laurent Desaulniers, vice-président des services de détection des brèches chez GoSécure. Merci à tous les deux. Bonne fin de semaine.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Après les informations, on va aborder le débat sur l'avortement aux États-Unis où les pro-choix sont attaqués de toutes parts. Je vais aussi discuter avec l'ex-journaliste Paul Robitaille de la répression du gouvernement russe contre les opposants à la guerre en Ukraine et de l'Inde aussi. Je vais en parler, qui a dépassé cette semaine la Chine comme pays le plus populeux de la planète. À tout de suite après les nouvelles.